Au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela saute aux yeux d'ailleurs, ce texte nous parle de réclamation, ce qu'on appelle par réclamation satanique. Il s'agit d'ailleurs, en tout cas dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, d'une double réclamation. C'est-à-dire, Simon est d'abord réclamé par Satan, et ensuite, par sa prière, Jésus aussi réclame Satan, mais pour le protéger. De sorte que ces deux réclamations ne sont pas de même nature. Satan réclame pour cribler, comme le froment, nous dit le texte, alors que Jésus réclame pour protéger, de sorte que la foi de ses disciples ne défaille pas. Alors, on entend par réclamation une demande insistante auprès d'une autorité pour faire connaître l'existence d'un droit. Il peut s'agir aussi de la réclamation d'une dette ou encore d'une chose nous appartenant afin d'obtenir gain de cause. Le mot « Satan » quant à lui signifie « adversaire ou accusateur. La notion de réclamation satanique fait donc appel à cette caractéristique du diable à être notre accusateur devant Dieu afin de réclamer des choses qui ont pour but de nous nuire. Satan fait toujours ses réclamations auprès de Dieu contre nous, mais avec des arguments concrets visant à justifier effectivement ses demandes. Il se sert même de la parole de Dieu pour faire ses réclamations contre nous. Car il connaît très bien les Écritures et il veut s'en servir pour notre jugement. Il faut donc comprendre que les réclamations sataniques ne sont pas des demandes non fondées. Non, ce sont des demandes qu'il fait contre nous auprès de Dieu en tenant compte d'arguments solides afin d'obtenir, comme je disais, gain de cause. Satan peut réclamer la vie d'une personne, son âme, son corps, d'ailleurs, à l'exemple de Moïse. Satan réclamait et disputait, ça se passe entre lui et l'archange Michel, le corps de Moïse, Jude chapitre 1, verset 9, après sa mort. En effet, lorsque nous mourons, dit la Bible, notre âme va dans le repos de Dieu, mais le corps, quant à lui, retourne dans la poussière. Il est poussière, le corps. Toutefois, le diable peut réclamer le corps d'une personne après sa mort afin d'en être le propriétaire. Vous voyez ? Et nous devons savoir que le Seigneur Jésus veille même sur notre corps après notre mort. Car ce corps est bel et bien la propriété de Dieu. La Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit, mais il restera le temple du Saint-Esprit. Ce corps ressuscitera d'ailleurs au dernier jour et deviendra un corps glorieux à l'image du corps de Jésus-Christ ressuscité. Mais imaginez si Satan obtient justement notre corps suite à la réclamation. Comment allons-nous ressusciter? Avec quel corps? Il peut réclamer aussi la santé d'une personne. C'est bien, c'est le cas d'ailleurs de Job. Il peut réclamer l'identité d'une personne, il peut réclamer la destinée d'une personne, etc., etc. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que s'il y a un accusateur, Satan, pour nous, il y a aussi un avocat ou un défenseur, Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Vous voyez ce qui fait l'objet de réclamation? C'est le péché. « Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà la bonne nouvelle. Frères et sœurs, Dieu connaît les pensées de Satan. Dieu connaît les pensées de Satan. Et aussi d'une manière d'ailleurs qui nous échappe, Satan peut parfois faire connaître ses désirs à Dieu, ses besoins. Il en a des désirs. Et il les fait connaître à Dieu. On pourrait traduire le verset 31 de cette manière. Satan vous a réclamé et vous a obtenu. Christ s'adresse d'abord à tous ses disciples, comme l'indique le pronom personnel pluriel, vous, puis à Pierre, seul, d'après le pronom personnel, toi. Ensuite, dit-il, j'ai prié pour toi. Jésus a prononcé ces paroles juste après le moment solennel et précieux au cours desquels il a institué la Sainte Cène, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Les rachetés de Dieu que nous sommes, j'aime le vieux français qui dit les rédimés de Dieu, les rachetés de Dieu que nous sommes, nous devons toujours et constamment, frères et sœurs, avoir à l'esprit les trois choses suivantes. D'abord, notre faiblesse chronique. Nous sommes faibles. Vous voyez, Job est appelé le plus intègre de tout l'Orient et de tout l'Occident. Le plus intègre, Job. Cependant, Satan l'a réclamé. Ça voudrait dire que l'homme, malgré notre intégrité, nous sommes faibles. Et nous ne devons jamais perdre ça de vue. Notre faiblesse chronique. Nous sommes faibles de par nous-mêmes. J'avais dit ni par force, ni par puissance, mais uniquement par l'Esprit de Dieu. Ensuite, la deuxième chose que nous ne devons jamais perdre de vue, ce sont les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Le diable a aussi un plan machiavélique pour nous empêcher de vivre la vie justement telle que Dieu désire que nous puissions réellement la vivre. Dieu a pour nous, dit la Bible, des projets de paix et de bonheur, tandis que l'ennemi a aussi pour nous des projets de souffrance et de malheur. Oui, et enfin, la troisième chose à ne jamais oublier, même si nous sommes faibles d'un côté et que l'ennemi a de l'autre côté des plans machiavéliques contre nous, des projets qui sont contraires, mais n'oublions jamais, mais vraiment au grand jamais, que notre sécurité se trouve en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en lui seul. Il est significatif que le Seigneur s'adresse à Pierre en l'appelant Simon, Simon. Vous voyez, par cette répétition, il cherchait non seulement à souligner le sérieux des paroles qui allaient suivre, les paroles qu'il s'apprêtait à prononcer, mais également la faiblesse, justement, de son disciple. Il ne l'appelle pas par Pierre, c'est-à-dire le roc, mais il le désigne par le nom qui soulignait sa faiblesse naturelle d'un être humain, fragile et pécheur, afin de le mettre en garde. C'est une demande sinistre que Satan sollicite. Satan vous réclame tous, dit-il, mais surtout toi, Pierre. C'est une affirmation, frères et sœurs, à faire frémir. Le malin vous désire, vous réclame, il supplie en quelque sorte de vous avoir. Il y a de quoi à trembler devant cette pensée. En écoutant ces paroles effrayantes, nous voyons Simon, mais en train de partir lentement mais sûrement dans l'abîme, si Satan vous réclame et vous obtient. Oui, dans l'abîme même de l'enfer. Mais en même temps, nous découvrons que Satan a ce qu'on appelle un accès limité. Un accès limité lorsqu'il désire entrer en contact avec le peuple de Dieu. Même si ses désirs sont partiellement exaucés, il reste, lui Satan, il reste assujetti à l'autorité souveraine de Dieu. À l'autorité souveraine de Dieu. L'expérience de l'apôtre Paul, souvenons-nous à propos de son écharpe dans la chair, nous éclaire sur ce sujet et nous permet d'énoncer certains principes qui s'appliquent à la sinistre requête, demande de Satan concernant les disciples. L'apôtre Paul considérait son écharpe dans la chair comme, dit-il lui-même, un ange, mais un ange de Satan venu pour le souffler. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Chapitre 12, pardon, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Dans la providence divine, cette affliction a contribué justement au bien de l'apôtre Paul, car elle l'a empêché de s'enfler, dit le texte, d'orgueil. L'apôtre Paul savait toutefois que cet ennui était d'origine satanique. Voyez, vouloir à tout prix attribuer telle circonstance à Satan et telle autre à Dieu, c'est ne pas comprendre que la souveraineté de Dieu, la souveraineté divine, concerne tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Elle embrase tout, la souveraineté de Dieu. Quand on fait attention à la manière dont Paul déclare que cette écharpe dans la chair lui a été mise, en réalité, que l'apôtre utilise en fait un verbe au passif avec Dieu, un peu comme sujet tacite, sujet indirect, ce qui signifie que Dieu est l'auteur de ce don de l'écharpe. Mais Paul précise que cette écharpe est un messager de Satan. Cette ambivalence, vous voyez, Dieu, Satan, montre à quel point l'apôtre pouvait attribuer à Satan des expériences désagréables, mais tout en les considérant assujetties à la volonté suprême de Dieu. Paul estimait sans aucun doute que l'intention de Satan, effectivement, était malveillante, et celle de Dieu, effectivement, bienveillante, mais tous les deux agissait, en tout cas dans son affliction. Satan pouvait utiliser la douleur pour la douleur de Paul pour le tourmenter, mais pareillement, Dieu s'en servait pour l'utiliser comme instrument pour empêcher l'apôtre Paul de s'enorgueillir et pour favoriser justement sa croissance dans la grâce. C'est Dieu qui envoie les preuves en question, et c'est de Dieu, que Paul attendait sa délivrance. Paul savait que plus d'une fois, Satan avait contrarié ses efforts missionnaires. Comme il écrit d'ailleurs aux Thessaloniciens, il dit, nous voulions justement aller vers vous. Du moins, moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. L'idée exprimée dans le texte original de ce passage, de ce verset, est telle que, en fait, celle d'une route, on pourrait dire une route coupée, afin de la rendre impraticable. Ce qui permettait à Satan de freiner, voire d'empêcher l'apôtre Paul d'avancer. Il nous est désagréable de savoir que Satan nous empêche parfois de faire ce que nous aimerions tellement accomplir au service de Dieu. Mais même ces empêchements-là restent soumis à la souveraineté de Dieu et servent les desseins de Dieu. C'est dans cette optique que nous allons donc examiner la permission sollicitée par Satan de passer les disciples au crible comme du froment, et nous verrons finalement, frères et sœurs, qu'il y a un double criblage, une double demande, l'un venant de Satan et l'autre venant justement de Dieu par Jésus lui-même. En demandant que les disciples, justement, soient livrés entre ses mains, en demandant cela, Satan disait en somme qu'il lui appartenait, que les disciples lui appartenaient. Ils sont à moi, en réalité, alors livrez-moi. En fait, il estimait qu'il était de son droit de les passer au crible. Ces hommes étaient des pécheurs, du péché. Toutes leurs facultés étaient souillées par le péché. Mais si Satan n'avait aucune prise sur Jésus parce qu'il était exempt de tout péché, Mais pour les disciples, vous voyez, à cause du péché dans leur vie, à cause de la nature pécheresse, Satan avait une prise directe sur eux. N'oublions pas que Satan a réclamé Jésus. La tentation de Jésus au désert, c'est une réclamation. Il voulait avoir Jésus et empêcher à ce que son plan de salut de l'humanité s'accomplisse. Voyez. Mais Jésus était sans péché. Sans péché. N'oublions jamais que le péché est l'enfant du diable. Le péché. Il est là, le péché, pour servir les desseins du diable. Et c'est à cause du péché qu'il nous réclame. Et le péché est un défi flagrant et direct contre la souveraineté de Dieu. Et le diable le sait très bien. À cause de cela, il réclame que les disciples soient livrés entre ses mains. Pour Satan, les disciples doivent passer de la main de Dieu à sa main. Lorsque le blé, voyez, changeait de main, la responsabilité du criblage aussi revenait à celui qui venait de l'acheter, donc à l'acheteur. La question qui se pose alors est, à qui appartenaient les disciples? À qui appartenaient les disciples? En envisageant de passer les disciples au crible, voyez, Satan assumait que la récolte du blé lui appartenait. Il prend la liberté de tenter ses hommes et de les passer au crible. Mais sa déclaration de posséder les disciples était une déclaration de guerre, en fait, que Dieu ne pouvait ignorer. La guerre de Satan contre Dieu, frères et sœurs, est un combat pour obtenir quoi? La guerre de Satan contre Dieu, c'est un combat pour obtenir la propriété de ce monde. La propriété sur le monde. La propriété, Satan veut obtenir l'acte de propriété sur le monde. Et dans ce monde, justement, il veut aussi avoir l'acte de propriété sur l'Église. Il veut que l'Église puisse lui revenir. Jésus, quant à lui, connaissait parfaitement le décret de Dieu. Il savait qu'il avait reçu de Dieu un peuple. Il avait reçu de Dieu un peuple et sa mission consistait justement à racheter ce peuple et à le délivrer de la main de l'ennemi. C'est pourquoi il pouvait dire au Père, « Tu m'as donné pouvoir sur toute chair. » afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Jean chapitre 17, au verset 2. Nous sommes donc en présence, frères et sœurs, de la revendication de Christ et de la contre-revendication de Satan. Telle était la situation lorsque Satan formule sa demande. Mais une autre requête avait déjà été formulée en faveur des élus de Dieu, une autre requête. En effet, Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi. » Il avait déjà prié pour tous les disciples. Jean chapitre 17, verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, c'est-à-dire du malin. » Il avait prié pour les hommes qui allaient être passé au crible de Satan. Et il avait eu une pensée spéciale pour Pierre. Jésus n'avait pas prié pour que les disciples soient soustraits au crible du diable, mais qu'ils soient gardés afin que leur foi ne défaille point. C'est-à-dire que leur foi ne soit pas anéantie. Toujours affermie. Remarquons de nouveau à quel point Jésus se soucie des besoins de Pierre. Pierre avait déjà été, bon, entre guillemets, un petit Satan pour Jésus. Et il allait sous peu le renier, justement, de la manière la plus abjecte. Deux demandes montent donc devant le trône de Dieu. Deux parties en justice font valoir leurs droits. Les deux positions concernent la totalité du peuple de Dieu. Deux positions. Ils sont à moi, tes soi-disant disciples, insiste Satan. Ils ne sont pas différents des autres hommes qu'on trouve dans le monde. Ils sont à moi. Je les réclame. Donc Satan présente sa demande. Et que fait Christ? Il regarde sa croix. Oui, il regarde sa croix et répond, mais je les ai rachetés. Je les ai rachetés. Ils m'appartiennent. Deux demandes. Ils m'appartiennent. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Jean 17, verset 10. Combien la prière de Jésus en faveur des siens est émouvante, cette prière qu'on appelle sacerdotale, Jean 17. Et quelle force s'en dégage. Le loup, dit la Bible, vient justement pour disperser les brebis. Mais le berger est prêt à donner sa vie justement pour ses brebis. Il prie avec confiance pour ses brebis. Père, dit-il, tu vois, ils croient en moi. Alors viens au secours de leur incrédulité. Soutiens leur foi. C'était, en tout cas, dans cet esprit, certainement qu'il a prié. Satan avait essayé en vain de séparer Christ de l'Église. Je vous ai parlé de la tentation de Jésus au désert, qui est une réclamation. Il voulait séparer Christ de l'Église. Imaginez une église sans Christ, mais ce n'est pas une église. Donc il voulait séparer Christ de l'église, de laisser les brebis sans berger. Il essaye maintenant de faire quoi? Mais de séparer l'église de Christ, car les apôtres représentent toute l'église. C'est par leur ministère que l'église va s'épanouir, c'est par leur ministère que l'Église va vivre. S'il succombe, mais ce que la Bible dit, Genèse 3,15, la postérité de la femme sera détruite. Les sources, de l'Église se tariront. Le côté même de Jésus aura été percé en vain. Satan réclame tous les apôtres. Il voulait les cribler comme du blé, ce qui implique une action vigoureuse et voire même violente. Bien aimé, le crible à moitié plein est fortement secoué jusqu'à ce que la paille soit enlevée et que seul reste le bon grain. Mais en passant les apôtres au crible, Satan voulait démontrer qu'il n'était pas que de la balle, de la menue paille. Il savait que c'était vrai de Judas. Et que Pierre allait justement être une cible, en quelque sorte, facile. Mais pourquoi pas les autres? Si seulement il pouvait les secouer longtemps et fortement, en tout cas tout ce qu'il y avait de bon en eux s'envolerait. Ne laissant que du mauvais, ils finiraient par perdre leur assurance et abandonneraient le Seigneur, tous les disciples. Satan savait que ces hommes n'étaient pas à la hauteur de son pouvoir et de ses ruses. Il le savait, et que livrés à eux-mêmes, ces hommes, ils périraient. Mais livrés à nous-mêmes, que pouvons-nous faire devant l'ennemi? Attisé par sa haine de Dieu sans limite, Satan a souhaité et exigé prendre immédiatement possession des disciples. Il se disait, dans la perspective imminente de la croix de Christ, que si son dessein devait aboutir, c'est maintenant ou jamais. Donne-moi tes disciples. Tu auras une église sans disciples. dans cette situation, ni la prière de Christ, ni la demande de Satan, qui est aussi une prière, ne manque de ferveur. Chacun de son côté essaie de mettre du sien. Chacun va au bout de son aspiration et de son désir. Mais Satan était lent à comprendre que les rachetés sont gardés. Les rachetés sont gardés par la puissance de Dieu. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 5, ils sont littéralement à l'abri, comme dans une garnison, à l'abri par la puissance de Dieu. Satan ne peut rien, mais je dis bien rien contre la protection divine, selon laquelle aucun de nous ne pourrait résister. Protection divine. Dieu ayant accédé à la demande de Satan, il apparaît donc comme la première cause du criblage, Satan. Notons à nouveau cette sainte ironie de Dieu. Le criblage satanique sert à quoi, frères et sœurs? Mais le criblage satanique sert à éliminer ce que Dieu a en horreur en nous. Quand il veut nous émonder, que fait-il? Dans sa souveraineté, il permet à Satan de nous cribler. Et ça enlève de l'orgueil en nous, ça enlève tout ce que Dieu a en horreur. Voilà le sens du criblage de Satan. Ainsi, l'hypocrite n'endurera pas la persécution et n'acceptera pas de subir le martyre. Le crible auquel Satan soumet les disciples sépare donc bel et bien le grain de la balle. Mais le grain reste grain. Le grain reste grain. Judas était de la balle. Et les autres disciples, non. Ce double criblage qui s'effectue tout au long des siècles, frères et sœurs, est avant tout l'œuvre souveraine de Dieu. Par l'intermédiaire d'un prophète, le prophète Amos, au chapitre 9, verset 9, Dieu dit, « Voici, je donnerai mes ordres. » C'est Dieu qui donne mes ordres. « Et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Un seul grain. Israël serait éparpillé et dispersé à cause de son péché, secoué dans le crible même de la colère de Dieu. Mais dans ce criblage, dans ce vanage, voyez, les prophètes comme les Jérémie, les Daniel, les Néhémie, tout ce que vous pouvez citer, et même les fidèles, nous, justement, souffrirons ensemble. Mais les vrais grains seront finalement préservés, les vrais grains, sans qu'un seul ne se perde, les vrais grains. Dans l'acte de baptême, vous voyez, tous souffrent. D'ailleurs, les chrétiens, ils disent même, mais depuis que je me suis converti à Christ, j'ai l'impression de beaucoup plus souffrir que quand j'étais dans le monde. Mais les gens dans le monde souffrent, et même des fois, les chrétiens traversent la souffrance. On a parlé de Job. Oui. Tous souffrent pareillement, mais cette opération poursuit deux buts. Deux buts. Le blé est engrangé et la paille est brûlée. Nous souffrons pour être engrangés, pas pour être brûlés. Et ce criblage va atteindre son sommet au fur et à mesure, le dernier jour, lorsque l'agneau de Dieu victorieux, dit la Bible, avec son vin à la main, nettoyera son air, amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera. Il brûlera la faille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 3, verset 12. Au dernier jour, cette séparation sera complète et définitive. Dieu aura séparé le bon grain d'un côté, la faille de l'autre. Vu que ces deux criblages, celui de Satan d'un côté et de Dieu de l'autre, coïncident souvent, nous devons donc nous rappeler, frères et sœurs, de la prière enseignée par Jésus lui-même. Ne nous induis pas en tentation, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. donc du malin. Matthieu chapitre 6, verset 13. Frères et sœurs, Dieu ne tente personne. Mais comme le souligne cette prière, notre Père peut nous induire en tentation en permettant à Satan de nous tenter. Il utilise les tentations de Satan. Dieu utilise les tentations de Satan pour le bien de ses enfants que nous sommes. Quand l'enfant de Dieu est assiégé par l'ennemi, il doit demander à Dieu de l'arracher de ses griffes. Satan, nous dit la Bible, nous accuse nuit et jour, l'accusateur, les frères. Ceux qui font une réclamation satanique, ce sont des accusations. Il le fait, mais parce qu'il estime qu'il a des dossiers. Il a des dossiers contre nous. Et il va en jugement contre nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous placer constamment sous ce qu'on appelle la miséricorde divine. Constamment. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit que la miséricorde triomphe du jugement. Voilà ce que Jésus a dit. C'est-à-dire qu'une arme excellente contre le jugement, hein, et qui est à la base des réclamations sataniques, c'est le jugement hein, qui est à la base, c'est la miséricorde. Voilà l'arme excellente. La miséricorde divine. Voilà pourquoi il faut se placer constamment sous la miséricorde, la protection de la miséricorde. Il faut comprendre ceci, que lorsque Satan nous accuse, et c'est ce qu'il fait souvent, la Bible dit, nuit et jour, notre salut, lorsqu'il nous accuse, notre salut, ou notre délivrance ne se trouve pas dans la force de nos argumentations. Non, notre salut, notre délivrance se trouve justement dans quoi? Mais dans la qualité de notre avocat, Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, Jésus a prié en faveur de Pierre. Et la foi de Pierre n'a pas été anéantie. Nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber, avoir des moments de faiblesse. Et vous êtes avec moi d'accord que ça, cela arrive parfois, ces moments de faiblesse. Mais tout comme la bonté, la miséricorde de Dieu envers les siens, nous suit tous les jours de notre existence. Et nous pouvons, chaque jour, devant les attaques de l'ennemi, devant même ses réclamations, faire confiance à notre avocat qui ne perd et qui ne perdra aucun procès jusqu'à son retour dans la victoire et la gloire. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole.
Amen.